Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne. Pour cet invité du jeudi aujourd'hui, nous allons accueillir Isabelle Cousteil, qui vient de sortir un livre, Souviens-toi d'oublier, aux presses de la Cité. Eh bien, on va la retrouver dans quelques instants pour parler avec elle de son livre. Just a jackknife has back heat, dear. The line forms on the right, dear. Voilà notre invité du jeudi aujourd'hui, je vous le disais, Isabelle Cousteil, qui vient d'écrire un dernier roman, Souviens-toi d'oublier, aux presses de la Cité. Isabelle, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Bienvenue donc sur Radio Craponne. Il me semble que c'est la première fois que je fais un livre avec vous.
Tout à fait.
Ah oui, oui. Ouais, vous, parce que...
C'est une grande première.
C'est une grande première, voilà. Alors, tout d'abord, on va essayer de vous présenter, hein, puisque... Alors, j'ai vu que vous étiez parisienne un petit peu, quelque part.
Alors, je suis... C'est compliqué.
Un
peu partout. Oui, je suis parisienne montmartroise de naissance, d'une famille émigrée de la Haute-Loire.
D'accord.
Et actuellement, j'habite depuis quelques années à Arles, voilà.
Ah ok, donc vous avez complètement changé de quartier.
Exactement.
Vous aviez vécu à Montmartre, c'est quand même un chouette quartier de Paris, ça.
Oui.
Ouais.
Ah oui.
Alors bon.
La famille est montée de Haute-Loire pour se percher sur la plus haute montagne de Paris.
Oui, il y a une émission pas si vieille que ça, je crois que c'est hier, où ils ont parlé des Auvergnats à Paris, hein, qui avaient...
Il y en a
énormément. Hein, et puis ça continue. Enfin, ça continue. Et les générations continuent. Quoi. Voilà.
Oui. Belle communauté.
Alors, tout d'abord, vous faites quoi dans la vie? Vous faites qu'écrire des livres ou vous faites autre chose?
Alors, j'ai assez longtemps fait autre chose. Je m'occupais de ce qu'on va appeler de l'ingénierie culturelle, donc je m'occupais d'aménagement de sites culturels, de muséographie, d'événementiel culturel. À ce titre, j'ai eu l'occasion de travailler à la cathédrale du Puy, notamment.
Ah.
Et puis, depuis une quinzaine d'années maintenant, je me consacre à l'écriture, à sa pratique et aussi à son enseignement, puisque je suis enseignante en scénario en école de cinéma.
Ah d'accord, vous êtes restée dans la culture quand même. Hein.
Oui, on ne se refait pas.
alors c'est pour ça que vous étiez occupée par les examens.
Exactement, c'est la fin de l'année.
Alors bon, j'ai vu que vous aviez écrit quand même déjà plusieurs romans, toujours aux presses de la Cité.
Alors non, j'ai écrit des choses assez différentes d'ailleurs.
Ah oui, je vois.
C'est
oui.
Plutôt des nouvelles que des romans, des formes courtes, du théâtre, de la poésie, des contes jeunesse, et surtout beaucoup de nouvelles, des récits de vie aussi, que j'ai écrits sur des personnages plus ou moins publics, notamment dans le domaine de la culture.
D'accord.
Mais en réalité, c'est mon premier vrai roman long, là, vraiment première forme longue, avec une construction longue, et donc mon premier roman aux presses de la Cité.
Qu'est-ce qui vous...
éditeur.
Oui, qu'est-ce qui vous a dirigé vers votre premier roman? Vous avez eu envie, depuis un moment, d'écrire un livre?
Ah oui, ça faisait un petit moment que je n'arrivais pas à trouver le temps vraiment de me consacrer à l'écriture d'une forme longue, d'un récit sur le long cours, et que je voulais me confronter à ça. C'est bien d'écrire, mais cette construction-là, j'avais envie de voir si j'en étais capable de tenir des personnages comme ça pendant toute une durée, de construire une intrigue, des dénouements, des rebondissements. Et donc, ça faisait un petit moment que ça me tenait et qu'il y avait des feuillets qui s'empilaient au fond d'un tiroir. Et puis, j'ai pris un petit coup de sang l'année dernière et je me suis dit qu'il fallait quand même réussir à en finir. Et sur les conseils d'amis, je l'ai envoyé au prix Jean Anglade, et qui est soutenu par les presses de la Cité. Et voilà, en fait, j'ai été finaliste et il
Mais
a été repéré par l'éditrice et par Michel Bussy.
Alors, je ne vais pas dire quand même, mais vu le thème Ça peut être une de vos biographies ou pas du tout?
Non.
Non, bon.
C'est une fiction.
Oui.
Bien sûr, je crois que beaucoup de fictions vont piocher dans des éléments personnels, on va dire. Mais tout ça, je dis souvent pour faire comprendre un peu ça, que c'est comme un peu comme une recette. C'est-à-dire, on va mettre des ingrédients, et dans ces ingrédients, il y a des ingrédients personnels. Mais après, on monte une recette, on cuisine le plat, et au final, on ne sait plus très bien ce qui est personnel, et ce qui est inventé, ce qui est réel et ce qui est fictif. Donc oui, il y a des éléments personnels, mais complètement réinventés. En fait.
Oui, parce que là, on voit quand même que vous restez un peu du côté culturel. Hein. On va voir que oui. Jules... enfin, c'est une Nina qui va trouver 5 lettres écrites par Jules. Alors, on voit que... Elle est scénariste, hein, donc on est quand même dans un peu ce que vous vivez régulièrement.
On est un peu dans ma zone de confort.
Voilà, un petit peu, ouais. Et puis lui, finalement, c'est un musicien, hein, donc on reste quand même dans le domaine du spectacle, hein, quoi qu'on en dise.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai préféré pour le premier roman jouer avec des choses que je connaissais, des univers que je connais, des personnes que je connais, de même que j'ai bien aimé l'ancrer entre Paris et l'Auvergne, une Auvergne qui est très inspirée de la Haute-Loire, même si c'est pas complètement, enfin c'est un lieu imaginaire, mais pour moi dans ma tête ça ressemble beaucoup au plateau de Haute-Loire, et voilà, j'ai préféré ne pas m'aventurer sur des terrains que je ne connaissais pas, donc j'ai joué avec mes endroits de prédilection, effectivement, le cinéma, l'art, la musique, mais bon, en essayant de faire quelque chose de pas pédant, quoi, j'espère.
Voilà, donc alors, bon, pour parler un peu, même de ce livre, il y aura Nina et Jules, hein, puisque c'est un peu là la trame de ce roman. Alors elle, justement, vous l'avez situé où, en Haute-Loire ou dans... Pas du tout.
Pour moi, oui. Pour moi, dans ma tête, ce sont les paysages de Haute-Loire, mais ça reste fictif.
Oui,
ça pourrait être dans le Cantal.
En Auvergne. On va résumer en Auvergne. Voilà.
C'est quand même beaucoup la Haute-Loire. Hein,
ouais. Alors bon,
je fréquente depuis 60 ans.
Ah oui, ça va. Alors bon, vous connaissez un petit peu, quoi. Hein, vous venez de quel côté en Haute-Loire, vous?
Ma famille était initialement au Puy et à Retournac.
Ah oui, d'accord. Bah,
dans la vallée de la Loire, en direction d'Issajau, quoi.
Tout près de chez nous.
Et mon mari, sa famille est au Boudou, près de Craponne. Hein, donc je viens.
Ah bah, je connais un petit peu les Boudous, oui, bien sûr.
Voilà.
D'accord, bah voilà comme quoi.
C'est ma belle famille.
Le monde est petit, hein, comme on dit. Hein.
Le monde est très petit. Et j'ai découvert que mon mari était de là-bas. 5 ans après l'avoir rencontré dans le cadre du travail. Quoi.
D'accord.
Et donc, on s'est côtoyé certainement quand on était enfant, mais sans le savoir.
Voilà, c'est ce qui est bien. Alors bon, voilà Nina qui va découvrir dans un placard, ouais, c'est souvent comme ça, on découvre des choses de la famille qu'on ne sait pas franchement. Hein. Et puis, ça va commencer un peu... à trotter dans sa tête, hein, puisque vous parlez d'un coffret qui renferme des souvenirs de sa mère. Elle découvre une lettre d'enfant faisant la lumière sur ce Jules. Alors là, le Jules qui l'obsède, c'est son... Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à elle? C'est quoi, en fait? Allô? Oui, on en était à Jules, hein, donc qui va être un peu l'intrigue là, par rapport à ce qu'elle va trouver.
Oui, absolument.
Alors,
absolument, Jules,
oui.
C'est quelqu'un qu'elle pense avoir oublié, mais pas tout à fait.
Oui, donc...
la raison...
Oui, ça revient dans sa mémoire, quoi.
Oui, ça revient dans sa mémoire après un indice trouvé dans une lettre.
Voilà, c'est ça, oui, c'est le secret, là, qui... Alors, vous parlez du secret de la mort de ses parents, hein, Donc elle va retrouver oui. Jules, en fait. Hein.
C'est ça.
Et alors...
Ce Jules qui est écrit sur un bol, mais ne s'appelle pas vraiment Jules, en réalité. Mais elle avait un peu oublié celui qui se cache derrière ce nom de Jules. Donc il y a un petit élément d'enquête, on va dire, pour retrouver ce personnage qui est au cœur du secret de la mort de ses parents, effectivement.
Oui, alors tout au long du roman, c'est ce qui va garder les lecteurs un peu, je dirais, en alerte, quoi. Ils vont dire qu'est-ce qui va se passer, qui est ce Jules, en fait, hein.
Oui.
Et c'est ce que vous allez... Oui, allez-y.
Double enquête, parce qu'elle, effectivement, remonte sur les traces de la mort de ses parents et en même temps va découvrir un peu la vie secrète de Jules qu'elle ignorait aussi et dans laquelle il y a aussi un peu un suspense, je pense, par rapport à la relation un peu houleuse qu'il entretenait avec ses propres parents, quoi.
D'accord, oui, c'est toujours... C'est souvent hein, dans les secrets de famille qu'il y a des choses comme ça qui ressortent après des années. Et parfois, il y a des grosses surprises.
Ah oui, oui, oui. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose qui, finalement, rassemble beaucoup les gens. Enfin, je vois les lecteurs de ce livre souvent me disent « Dans ma propre famille, il s'est passé des histoires comme ça et on a cru longtemps que... » Et puis on a découvert, après la mort de tel ou tel, que ça ne s'était pas passé comme ça, que c'était autre chose. Donc c'est vrai que les secrets de famille, c'est un peu la base de beaucoup de récits romanesques.
Oui, oui, je sais qu'on en... Dans plusieurs, il y a eu des choses comme ça, où on découvre un secret, parfois en parlant, ou parce qu'il y a des choses... Alors, surtout quand ça se passe dans la campagne, hein, parce que... Parfois, surtout, je sais pas, j'ai pas fait attention dans quel... À quelle époque vous le situez, ça ?
C'est dans les années 90, à peu près.
Ah oui, si, quand même. C'est... Ouais, c'est plus récent.
À peu près, c'est récent.
Ouais.
Mais moi, j'ai connu, ce récit est inspiré un petit peu de ça, même si ce n'est pas du tout la même histoire, mais dans un petit village où j'allais souvent dans mon enfance, où effectivement, il y avait aussi cette notion que... On garde le secret, c'est un peu l'omerta des Corses. Hein. On garde un peu le secret parce que si on révèle des choses, ça va un peu trop ébranler la petite société du village. Donc, on se tait, quoi. On couvre un peu les choses pendant longtemps. Et là, c'est ce qui va se passer. En fait, c'est que pendant des années, tout le monde se sera tu jusqu'à ce que, quelque part, le retour de Nina fasse un peu... exploser ce secret et les gens vont se confier en fait sur la réalité de ce qui s'est passé.
Oui, parce que ça existe un peu moins maintenant, mais ça existait beaucoup à l'époque, quoi, dans les années, on va dire, plus en retrait, les années 60 peut-être, parce que déjà dans nos villages un peu reculés, il y a des familles qui étaient fâchées depuis 50 ans mais qui ne savaient pas pourquoi.
Ah oui.
Parce que les générations n'étaient pas au courant. Et ça, on l'a vu souvent. Hein.
Ah oui, oui, oui. Oui, moi, je l'ai connu même, j'allais dire, dans la famille de mes parents. Hein, entre ceux qui étaient partis, ceux qui étaient restés. Parfois, il y avait des histoires de terrain, des histoires... Et au final, vous avez raison. On ne savait plus très bien pourquoi on ne se parlait pas. Ça remontait à des lustres. Et puis voilà, quelquefois, ça a pu se prolonger sur des générations et des générations. Donc c'est un peu cette histoire-là aussi, effectivement. C'est comment on peut garder des secrets parfois pendant un certain temps, et puis jusqu'à ce que quelqu'un vienne faire éclater, on va dire, la vérité, quoi.
Et alors Nina va être quand même assez bouleversée parce qu'elle va découvrir...
Oui, effectivement, elle est assez bouleversée par ce qu'elle découvre, tant de son histoire personnelle que de l'histoire de ce fameux Jules. Elle est assez bouleversée parce que finalement, elle retrouve son enfance et des lieux et des gens qu'elle a quelque part un peu abandonnés parce que elle a vécu sa vie, elle a connu le succès dans le monde du cinéma, elle a vécu ailleurs. elle a pris de la distance par rapport à ce monde de l'enfance, et ça, je pense que ça peut arriver à beaucoup de gens, en fait, de parfois un peu devenir infidèle par rapport à des choses qui avaient été importantes quand on était enfant ou adolescent. Et puis, bah, la vie fait que, voilà, on change et on oublie un peu, en tout cas, on croit avoir oublié. Donc, le fait de se retrouver à revenir 20 ans après sur ses terres, dans cet endroit où elle était heureuse, de retrouver ce fameux Jules, va beaucoup l'ébranler, mais dans le bon sens, dans le sens où ça va lui permettre certainement de faire la paix aussi avec elle-même, avec son passé, avec la tragédie qu'elle a vécue à travers la mort de ses parents qui a été violente, et donc de mieux repartir sans doute dans la vie, réconcilier avec son passé.
Oui, alors justement, j'allais y arriver là. La mort de ses parents, oui, vous le dites, c'était assez violent, donc c'est ce secret qui va être découvert.
C'est la cause, en fait. Elle a toujours pensé que la mort de ses parents, elle était en partie responsable de la mort de ses parents, alors que, au fond, elle n'y est pour rien, quoi. C'est un concours de circonstances. Et bon, je ne vais pas en dire plus parce que sinon on
Ah non,
dévoile un
non,
petit
il
peu
faut
de
pas
choses. Mais
dévoiler, oui.
voilà, il va se passer quelque chose ou quelqu'un qui est beaucoup plus responsable qu'elle, en fait.
Oui, voilà, c'est ce secret qu'elle va découvrir au travers, en fait, des retrouvailles avec Jules.
Exactement. Jules, qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans et qu'elle a sorti de sa mémoire et qu'elle retrouve 20 ans après avec lui et la vérité de la mort de ses parents et toute on va dire toute la tendresse de l'histoire qu'ils ont vécue ensemble, qui n'est pas une histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire fraternelle, on va dire, mais très forte. Et voilà, donc c'est un gros bouleversement effectivement dans sa vie et dans son mental aussi, dans son moral, parce que jusqu'alors Nina se noyait un petit peu dans le travail et dans les aventures et là elle va retrouver, ouais, encore une fois, elle va retrouver la paix.
Oui,
C'est ce
parce...
qu'il faut viser dans sa vie, hein, faire la paix avec ce qui nous a blessés.
ouais, bah, c'est vrai que c'est important, quoi. Et oui, alors elle avait vécu avec Jules peut-être bah, une amitié d'adolescent, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'elle, elle est fille unique. Jules, il est enfant unique aussi. Bah, lui, il s'accrochait beaucoup à elle pour les raisons qu'on découvrira dans le livre. Bien qu'ils soient d'univers différents, mais ils se retrouvent vraiment ensemble, très proches. Ils se sont beaucoup, beaucoup apportés étant enfants. Et j'espère qu'ils vont continuer étant adultes.
Ah ben ça, on le verra, hein. Ça, c'est vous qui allez nous le dire. Hein.
Voilà.
Voilà, donc aujourd'hui, on est avec Isabelle. On dit Cousteille ou Coustey, comment on dit là?
Cousteille.
Cousteille,
Cousteille.
d'accord. Souviens-toi
Oui.
d'oublier aux presses de la cité. Alors c'est vrai qu'il y a une similitude, hein, puisque Jules est fils unique, Nina est fille unique. Alors on sait que les enfants uniques... Alors, c'est pas toujours vrai, hein. Mais parfois on a plus de particularités, quoi. C'est plus difficile. Il n'y a personne pour se confier. On n'a pas de frère. Si on ne veut pas en parler à ses parents,
C'est
ben,
vrai.
c'est difficile. Alors que là, quand on a une amie, Nina ou l'inverse, Nina avec Jules, peut-être des fois ils se confient des choses que même leurs parents ne savent pas.
Ah oui, tout à fait. Oui, ils ont créé leur vie un peu secrète, hein, tous les deux. Alors, Nina apprend beaucoup de Jules, hein, il sait découvrir la nature, le rapport aux animaux. Voilà, c'est vraiment des moments d'insouciance d'enfance. Et Jules, lui, ça lui ouvre aussi un autre univers qu'il ne connaît pas du tout. Et puis, quelqu'un en qui il a confiance, effectivement, avec qui il peut être lui-même. Vraiment, il y a cette idée-là aussi dans le personnage de Jules. C'est pour ça que Jules ne s'appelle pas réellement Jules. C'est que, au fond, il est quand même assez malheureux dans sa vie d'enfant. Et quand il est avec Nina et la famille de Nina, Voilà, il peut se permettre d'être lui-même, d'être un peu plus insouciant que dans sa vie habituelle, quoi.
Est-ce qu'il a des parents très autoritaires?
Surtout le père.
Ah
La
oui.
maman, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Voilà. Bon, on va découvrir qu'elle a plus de caractère qu'on ne pourrait le croire. Mais oui, il a un père difficile.
Alors des fois les enfants en souffrent beaucoup, c'est pour ça qu'ils cherchent un refuge ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait. Et en fait, Jules s'est beaucoup attachée à Nina parce qu'elle a été elle a été son refuge. Elle et sa famille ont été son refuge quand ils se voyaient. Et c'est peut-être ce qui lui a permis de rester vivant, on va dire, et de toujours attendre l'espoir aussi de la revoir un jour. Parce que finalement, si Nina pense et a été assez infidèle, entre guillemets, mais parce qu'elle s'est sauvée d'un drame, hein, c'est pas par méchanceté. Lui, Jules, c'est quand même un peu l'incarnation de la fidélité, hein. C'est la fidélité à sa terre, la fidélité à sa mère aussi, parce que finalement, s'il n'a pas fui, c'est parce que quelque part il protège un peu sa mère. Et puis la fidélité à Nina aussi, voilà, qu'il espère toujours au fond de lui-même qu'un jour il va la retrouver, même s'il lui en veut beaucoup de l'avoir entre guillemets abandonnée. Je pense que ça le tient aussi de quelque part l'attendre.
Et alors, au niveau ses parents, avec quelle profession? Ils étaient dans l'agriculture ou puisqu'on est dans les petits noms?
Alors oui, ils sont à la fois dans l'agriculture et en même temps ils tiennent un bar, hôtel, restaurant. Voilà, comme on voit souvent hein, dans les villages, mais dans toutes les provinces de France, c'est comme ça. Hein, mais dans les petits villages où où on avait surtout, parce que j'ai connu ça aussi beaucoup dans ma jeunesse, mais ces hôtels-restaurants qui faisaient en même temps un peu épicerie, des pots de pain. Et puis le père, il est agriculteur. Voilà, on fait un petit peu tout, et c'est le lieu de vie, en fait. L'endroit où sont les parents de Jules, c'est le lieu de vie dans des petits villages comme ça que constitue le bar. Alors tout le monde s'y retrouve, les habitués, puis de temps en temps, il y a des gens de passage qui viennent apporter un peu le vent du dehors, et en même temps, ils sont parfois un peu considérés comme quand même restant un peu des étrangers, hein, quelque part. Ça, effectivement, c'est inspiré de lieux que j'ai pu voir quand j'étais plus jeune, en Haute-Loire, mais en Bretagne, j'en ai connu aussi d'autres comme ça. C'est des lieux importants où parfois c'est des petits théâtres là où il se passe à la fois des comédies, des tragédies. C'est des lieux de vie importants.
Ouais, c'est vrai qu'on dit souvent un peu, j'ai reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui était bretonne, et on dit souvent que la Bretagne ressemble à quelque part aussi un peu à l'Auvergne.
Je pense que ça a été des endroits, pour des raisons différentes, mais qui ont été longtemps dans l'histoire assez, soit enclavés, soit avec une personnalité très forte, voilà, une identité très forte. C'était pas forcément toujours des lieux de passage. Et donc, il y a un ancrage, il y a des traditions fortes. Et puis, il y a le fait de la montagne aussi, quand même. Et ça existe aussi dans d'autres endroits de montagne où les endroits ne sont pas forcément très accessibles. Moi, souvent, je pensais à la Haute-Loire. Enfin, ça s'inspire beaucoup, par exemple, des plateaux du Mézin où il y a des hameaux qui sont un peu coupés, enfin, qui étaient en tout cas assez coupés du monde pendant les mois d'hiver, par la neige, par tout ça, quoi. Ça paraît très loin et en même temps, c'est pas si loin que ça. Moi, j'ai 60 ans, dans les années 70-80, c'était encore l'hiver, quand on montait aux estables, c'était un peu l'expédition quand même, hein.
Oui.
Donc, forcément, les histoires se cristallisaient un peu aussi dans des endroits comme ça. Et c'est vrai qu'on trouve ça en Bretagne, on trouve ça en Pyrénées aussi. Il y a des sortes de micro-sociétés aussi, dans lesquelles il y a des gens qui, en plus. Moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour ces gens-là parce que c'est une vie rude. Soit parce qu'il y a les bêtes, il faut s'en occuper, parce que le climat n'est pas facile. compliqué, quoi. C'était des vies pas faciles. Donc, on peut aussi comprendre que les gens étaient parfois un peu rudes aussi et parfois un peu taiseux sur les histoires. Parce qu'il fallait réussir à rester, à vivre ensemble quand même, on va dire, en bonne intelligence, quoi. Et parce qu'on était un peu condamnés à vivre entre soi pendant plusieurs mois de l'année. Donc ça, c'est quelque chose aussi que moi qui me touche, qui j'ai souvent admiré parce que c'est pas la vie de Paris, quoi.
Ah, totalement opposé, hein. Et puis,
Oui.
ce que vous disiez, c'est vrai, c'est même pas si vieux que ça, puisque moi je l'ai connu, hein. Je suis un peu plus âgé que vous, mais on a connu, nous, à l'époque, quand on allait au collège ici, la neige tombait en novembre, on partait en mars, hein. On ne voyait jamais le sol
Ah
avant.
ben exactement.
Et il y avait des villages, alors au Paris du Mazet, n'en parlons pas, Saint-Front, tout ça, mais même à côté de chez nous, il y avait des
Ah oui.
villages où pendant un mois, ils ne pouvaient pas sortir parce qu'il n'y avait pas les. Les chasse-neige n'existaient pas, on déneigeait au traîneau, hein,
Ah ben
donc
non, non, non.
ouais. Donc c'est pour ça
Ah
que
oui.
c'est des coins un petit peu rudes, mais les. J'en parlais justement l'autre fois avec cette dame que j'ai reçue, et je lui disais, bah, vous savez, hein, à la campagne, bon, ça a beaucoup changé, mais en ne parlant plus de l'agriculture de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Mais à l'époque, eh ben, ils tuaient le cochon chez nous, voilà. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, et l'hiver passait.
Oui. Et oui, on est obligé de cultiver aussi une vie sociale avec le peu de gens qu'il y avait, mais quelque part, les gens se voyaient plus, se partageaient plus aussi autour de choses simples comme ça. Effectivement, tuer le cochon, mais moi, j'ai connu ça aussi.
Il y
Quand
avait
on faisait les fins de moisson l'été, le cochon,
et les veillées.
l'éveillé, oui. Ben ça, ma grand-mère m'en a beaucoup parlé, même mon père, hein, parce qu'eux, ils avaient vécu ça. Mon grand-père, il allait à l'école. Il habitait Bessin-Morel, il allait à Glavenas, il me disait, 6 mois, lui, il voulait plus voir un chemin avec de cailloux en peinture. Hein, il avait trop marché avec les sabots dans la neige quand il était gamin, avant la guerre de 14, quoi.
Oui, mais alors
C'était des vies.
je vous rassure, même après, hein. Parce que nous, on avait
Oui, même après,
des
bien sûr.
copains qui venaient de la campagne. Il y en a qui venaient encore en sabots, hein, dans les années 60. Hein, donc,
Ah oui. Ah oui.
ouais, c'était. Eh oui.
Moi, les souvenirs même des années 70 où on voyait encore les labours avec les chevaux, hein. Il y avait
Ah
des
ben, bien
endroits où
sûr.
ça labourait comme ça encore, hein. On a l'impression, enfin, on est du siècle dernier, ça c'est sûr, mais on a même l'impression qu'on est du 19e siècle, quoi, par rapport à des choses comme ça. Et puis, à l'époque, pas beaucoup de gens avaient la télé. Évidemment que le téléphone portable n'existait pas, les réseaux encore moins. Enfin, c'est pas du tout le même rapport social, donc. Mon histoire, elle se passe un peu à la transition de deux mondes, je crois, en fait, de deux époques, de deux époques plus que de deux mondes. Mais évidemment qu'on n'est pas dans cet enfermement-là, dans mon village que j'ai appelé Aigues-Fort, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on pouvait vivre dans les années 60-70, oui. Mais ça a duré longtemps, en fait.
Ah oui, jusqu'à la révolution de l'agriculture mécanisée, quoi. Voilà, c'était après.
Oui,
Le
oui,
monde
oui.
à la campagne a
Et
totalement
d'ailleurs,
changé.
ce qui sauve un peu Jules et lui permet de s'échapper, c'est l'arrivée de l'ordinateur et d'Internet. Parce que quand ça va pas, il s'enferme dans sa chambre et il allume l'ordinateur et il s'évade un peu comme ça, hein, d'ailleurs.
Oui, parce que.
Donc on est à la jonction de deux mondes.
Ouais, vous avez essayé de faire le parallèle, quoi, avec un peu avant et un peu après. Avant, il avait du mal à pouvoir s'évader, quoi. Alors qu'après, quand est arrivé
Oui.
Internet, les ordinateurs, bon, ça a été plus facile, quoi.
C'est ça. Et en fait, ses parents sont de la génération d'avant et lui commence à pouvoir accéder à d'autres choses et pouvoir. Il reste à Aigues-Fort, un peu contraint et forcé, mais en même temps, il regarde autre chose. Il a accès à autre chose.
Oui, parce que même à l'époque, il n'y avait pas. Le téléphone, c'était pas partout, hein. Déjà, hein. Donc,
Ah bah non,
oui,
non,
donc c'était. Alors
non,
maintenant, bien
non.
sûr, n'en parlons pas. Mais c'est pour ça qu'il y a une grosse différence. Alors, vous parliez de hôtel, ouais, ça faisait un petit peu tout, tel bar, épicerie. Alors, on peut dire un peu, c'était un peu dans les salons où l'on cause, quoi. Voilà.
Oui, c'est un peu ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est le lieu où tout le monde se retrouve, se rencontre, se partage des histoires.
Ah ben, les cafés avaient à l'époque une importance incroyable, hein, parce que moi je me rappelle dans ma jeunesse, il y avait des gros marchés, tout se traitait au café. Il n'y avait pas une affaire qui ne se traitait pas au café.
Ah oui, oui. Bah, moi je me souviens bien effectivement des marchés. Alors, je pense au marché du Saint-Jean. Nous, on venait beaucoup au marché à Craponne aussi, et puis à la Vogue à Craponne.
Le 15 août.
Le 15 août. Et je me rappelle encore, enfin, vraiment, c'est une image présente, hein, la foire aux bestiaux, ou à Saint-Front, la foire aux chevaux et tout ça. Et avec les cafés bondés, avec un monde fou, et puis les affaires qui stoppaient là, quoi. Il n'y avait pas d'écrit, hein, on stoppait. D'ailleurs, il y a une scène qui se passe dans un marché. Ça, pour le coup, c'est vraiment des souvenirs d'enfance, quoi. Ce marché où Nina voudrait absolument repartir avec un cheval à ramener à Paris. Et c'est cette ambiance-là, moi, j'aimais beaucoup. Et puis les brocantes d'été. On en faisait beaucoup, quoi. C'est très vivant en même temps, quoi. C'est un pays qui est très vivant. Enfin, moi, je suis très attachée.
Oui, mais je crois que vous connaissez bien le coin en plus, hein, parce que là,
oui, je le connais bien.
Tout ce que vous me dites, oui.
Mon père y a vécu longtemps, donc on y revenait, on avait la maison à Rottumac. J'avais beaucoup d'amis, beaucoup de copains et copines là-bas. J'avais qu'une hâte, c'était y retourner. Hein. C'était vraiment. Et j'y retourne toujours, et voilà. Et aujourd'hui, c'est amusant que la vie m'ait ramené près de quelqu'un qui a toute sa famille là-bas, quoi.
D'accord. Donc aujourd'hui, on est avec Isabelle Cousteil, Souviens-toi d'oublier aux presses de la Cité. Alors donc, bien sûr, on ne va pas révéler ce qui va se passer entre Nina, Jules qui retrouve Nina, ou Nina qui retrouve Jules, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Mais
dans les deux sens, oui.
Dans les deux sens, voilà, c'était... Et là, ça... il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises au jour, hein, à la lumière, et c'est là où toute la trame du livre va porter.
Oui, ça c'est vraiment pour moi l'essentiel de la construction du livre, c'est comment par recoupement, parce qu'on croise les deux points de vue, en fait Nina et Jules racontent une part de cette histoire. L'un et l'autre ne savent pas les mêmes choses, donc ces deux histoires se croisent. Et puis petit à petit, il y a d'autres personnages qui ont été les témoins de cette histoire qui se mettent à parler aussi. Donc on sort du silence et il y a des choses qui se révèlent. Soit ils parlent, soit ils écrivent. Et petit à petit, en fait, là, il y a toute cette partie qui est construite un peu, je crois, comme une enquête et comme une révélation un peu cinématographique, où petit à petit des indices se mettent en place, et puis il y a aussi des fausses pistes. On a l'impression que voilà, il y a des culpabilités de certains côtés, que les choses se sont passées d'une certaine manière, mais en fin de compte, chaque chapitre, j'allais dire, il y a un rebondissement qui fait qu'on se rend compte que ça ne s'est pas passé comme on croyait précédemment, que c'était arrivé. Alors c'est un peu difficile d'en parler comme ça parce que je veux pas.
Oui, non, mais c'est vrai, il faut. Oui, mais c'est
donc
ce que je dis.
C'est un peu flou ce que je dis.
Non, mais il faut que ça reste flou parce que il faut que la chute surprenne.
Sinon,
hein. Il faut que la chute surprenne. C'est comme au cinéma, si vous connaissez la fin du film, c'est pas la peine d'aller voir le film. Donc.
C'est ça. J'ai essayé de construire ça, mais vraiment comme effectivement dans un film où petit à petit on voit les choses se dessiner et se mettre en place. C'est un peu les pièces d'un puzzle, en fait. Et au bout d'un moment, on a tout le puzzle et on commence à voir quel dessin ça forme et ce qui s'est passé en réalité.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à Arles? C'est votre travail, en fait?
Non, c'est pas, c'est familial en fait. Et puis, je dirais aussi des accidents de la vie, c'est-à-dire que j'étais assez malade il y a un certain nombre d'années et j'ai décidé de changer de vie, de me consacrer à l'écriture et puis aussi de sortir de du stress, de la précipitation constante et de la pollution parisienne. Et à un moment donné, je me suis dit que si je restais en vie, il allait falloir aller à ses essentiels, retrouver du contact avec la nature, retrouver trouver l'écriture et faire vivre mon fils dans un endroit un peu plus, comment dire, sain que Paris. Et je suis venue à Arles, qui était une ville que je connaissais, où je savais que je pouvais aussi trouver travailler. Et puis mon mari avait partagé sa jeunesse entre Marseille, enfin les Bouches-du-Rhône et la Haute-Loire. Et donc, voilà, on a choisi d'aller plutôt dans les Bouches-du-Rhône. C'était plus facile pour moi de trouver du travail et pour lui aussi qu'en Haute-Loire.
Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est une très jolie ville, Arles, là. Vous avez fait quand même le bon choix.
Ouais. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient ou qui étaient même de Haute-Loire. Alors ça m'a surprise quand je suis arrivée. Mais alors je ne sais pas si c'est le chemin de Saint-Jacques là, qui fait ça, depuis Saint-Gilles, Arles, tout ça, là, un des chemins, ou quoi, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une transhumance en fait humaine entre Arles et la Haute-Loire. Donc il y a beaucoup de gens de la Haute-Loire ici à Arles. Et puis, voilà, j'ai trouvé même des cousteilles, alors qu'à Paris, j'en connaissais aucun. Donc, c'est amusant de voir qu'on est ramené parfois vers ses racines sans s'en douter. C'est un peu ce qui arrive aussi à Nina, en fait.
Oui, c'est ce que disait Karim à travers votre roman. Il y a un petit peu de vous.
Il y a sans doute, oui, bien sûr, il y a forcément...
Inconsciemment, mais ça y est.
Oui, certainement. Même si les faits eux-mêmes n'ont rien à voir avec mon histoire, mais...
Non, bien sûr, oui.
On y met toujours un peu de notre trip et de notre cœur, et de notre histoire.
Alors, donc, voilà, c'est Isabelle Cousteil qui est avec nous cet après-midi. Souviens-toi d'oublier auprès de la cité. Alors... vous me direz que j'ai toujours la question traditionnelle, la dernière, c'est toujours la même, parce que je sais que les écrivains sont très prolixes. Et est-ce que vous en avez un sous le coude?
Eh oui, il y en a un deuxième qui est en train de se préparer, effectivement. Et je compte bien y travailler cet été d'arrache-pied. Voilà, qui sera aussi une histoire sans doute... encore un peu avec cet élément de retrouver ou de trouver, je ne sais pas comment l'exprimer, mais de trouver une terre d'asile, j'allais presque dire, enfin une terre d'élection, un endroit où on peut se construire, où on peut se trouver soi-même à travers des affections avec les autres. Cette fois-ci, ce sera moins... je pense qu'il y aura des personnages qui seront un peu plus âgés, parce que je suis très attachée à la transmission entre les générations aussi, à la porosité entre les générations. Et donc, je pense que ça va parler un peu de ça.
Très bien. Ben écoutez, merci d'avoir été avec nous. Alors, peut-être qu'on vous croisera une fois en Haute-Loire.
J'aurai l'occasion de venir de toute façon sur les salons, je crois, du livre de Haute-Loire, donc
l'automne. Vous êtes jamais venu.
On aura peut-être l'occasion de se rencontrer.
Oui, non, mais je vous aurais vu, donc vous n'êtes jamais venu à Arsac, je pense, parce que je vous aurais rencontré. Arsac en Velay, c'est.
Non, je n'y suis jamais. Et alors... jamais venu, mais normalement, je crois que c'est prévu.
Ah, ben c'est bien, alors là, si je suis encore en vie, je vous rencontrerai. J'y suis depuis le début. Bien. Ah, ben vous savez, ça va vite, ça. Hein.
Ah.
Ça ne choisit pas. Hein.
Oui, ben ça, vous l'avez assez vite, vous.
Oui, voilà.
Non, mais... Oui, je crois qu'Arsac, c'est au printemps, il me semble.
C'est le premier week-end d'avril, toujours.
C'est ça.
Ouais.
Je... ma chère éditrice m'en a parlé, donc je crois que c'est dans les
Oui,
tuyaux,
mais elle est
mais
venue souvent, hein,
ça me
parce
fera très
qu'elle.
très plaisir de vous voir.
Ouais, bah oui, en général, en principe, à moins que j'ai un problème, mais c'est. Je serai là, parce que j'y suis depuis le début, alors je ne me rappelais même pas, mais on anime depuis le début. Puis les Presses de la Cité, on a des écrivains ici, de la Haute-Loire, qui sont aux Presses de la Cité. Il y a Florence Roche, je ne sais pas si ça vous parle.
Oui, tout à
Ouais,
fait.
ouais.
On était ensemble
Ah oui,
il y a
Florence.
deux week-ends, deux ou trois week-ends là.
Voilà, c'est ça, voilà, qui
Et à
écrit.
Saint-Julien-Chapteuil,
Voilà, qui est
oui.
prof, ouais, qui écrit énormément, hein, qui fait énormément de romans,
Ah
Florence.
oui.
On a Pierre Petit aussi, qui écrit des romans un peu
Oui.
plus noirs, surtout du roman policier, quoi, voilà. Enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais
Oui.
bon, c'est vrai que. Et maintenant, peut-être qu'on verra Craponne, parce qu'il y a un salon du livre à Craponne, mais depuis 2 ans, donc. Voilà. Voilà.
Ah ben oui, il
Ouais.
est à quel moment?
Il est. Ben, on vient de l'avoir, il était. Alors, attendez, moi, c'est. Il y a. Quinzaine de
D'accord.
jours, 3 semaines, là, au mois de mai.
Ah
Ouais,
oui,
voilà.
ah ben peut-être.
Et puis ça marche bien, hein, ça marche.
Peut-être, peut-être.
Mais j'en parlerai là, avec la
Eh oui,
libraire qui
ben.
s'en occupe. Et je pense d'ailleurs, quand j'ai. Mais je pense qu'elle a déjà reçu votre livre. Parce qu'en général, quand j'ai les livres, moi, je vais la voir. Soit je lui demande si elle l'a reçu, soit elle n'a pas reçu, elle le commande, quoi. Donc voilà.
Eh oui, parce que vous avez des auditeurs, hein. Je sais que dans ma belle famille, on écoute Radio Craponne, hein.
Oui.
Donc, et alors vous connaissez les Boudous?
Ouais, alors j'osais pas vous dire la famille, mais je sais pas si on peut en parler ou si on coupe et qu'on parlera hors antenne.
Ah, on peut couper, on peut
Oui,
couper.
d'accord. Bon, ben on va terminer là-dessus. Et puis,
Oui.
ben, merci d'avoir été avec nous, hein. Et on attend avec
C'était un vrai
impatience.
plaisir, Jean-Pierre.
Ouais, ben moi aussi, Isabelle, de vous. De vous
J'ai
découvrir, hein,
vraiment
parce que moi je suis comme
de.
Nina, je vous découvre.
Eh ben voilà, il n'y a pas d'âge pour se découvrir, vous voyez.
C'est ce qu'on dit.
Non, non, je
Merci.
suis très, très heureuse d'accorder une interview à la Haute-Loire, qui est
Merci
super.
beaucoup, merci. Cousteille pour son livre Souviens-toi d'oublier aux Presses de la Cité. On a parlé de Jules. Eh bien, on va terminer avec l'ami Bécaud, bien sûr, parce que quand Jules est au violon, c'est Léon qui est à l'accordéon.
Quand Jules est au violon et Léon à l'accordéon, faudrait avoir deux jambes de bois pour ne pas danser la polka. Oui. La fille à Mathurin, je peux te dire, elle danse bien, mais sitôt qu'elle ferme les yeux, je peux te dire, elle danse mieux. Oui. Les filles ici, ça fait des chichis, c'est tout en dentelle et en patchouli, c'est tout chiqué, mais pour les tomber, faut l'uliguli ou l'ostinilé. Chez moi, là-bas, c'est pas du tout comme ça. Quand Jules est au violon et Léon à l'accordéon, faudrait avoir deux jambes de bois pour ne pas danser la polka. Ouais. Yeah. La fille à Mathurin, quand tu lui causes, elle comprend rien. Cause-lui de frais dans le cou, c'est un miracle, elle comprend tout. Ouais. Yeah. L'amour, ici, c'est intellectuel. T'as l'air d'un voyou quand t'es naturel. Dois leur manquer le parfum des prés, qui est si important pour le sentiment. Chez moi, là-bas, c'est pas du tout le même tabac. Quand Jules est au violon et Léon à l'accordéon, faudrait avoir trois jambes de bois pour ne pas danser la polka. La fille à Mathurin, quand tu lui plais bien. Et le meilleur de la Saint-Jean, tu le danseras dans les champs. Les gars, ici, ils sont dégoûtants. Ils achètent l'amour comme un coup de blanc. Et moi, l'idiot, qui n'ai pas un sou, j'ai beaucoup de mal à boire un petit coup. Alors, bah, je vais m'en retourner chez nous. Et j'ai le violon et on a l'accordéon. Faudrait avoir deux jambes de bois pour le ralentir.
voilà donc pour terminer cette émission sur ce livre de Isabelle Cousteil, Souviens-toi d'oublier aux presses de la cité. Ben, c'était l'ami Béco. Cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Et vous le retrouvez également sur le site de Radio Craponne. Bonne fin de journée à toutes et à tous.